Et le journal de la rédaction vous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les poursuites contre le journaliste d'investigation Ivan Golunov sont levées. Son arrestation pour trafic de drogue avait suscité l'indignation en Russie. Claude Bruyot sera en direct de Moscou. Quelque chose ne fonctionne plus dans ce capitalisme qui profite de plus en plus à quelques-uns. Déclaration d'Emmanuel Macron devant l'Organisation internationale du travail. Marie Viennot est à Genève pour France Culture. L'Allemagne va interdire les thérapies de réorientation sexuelle, traitement pseudo-scientifique censé ramener les homosexuels à l'hétérosexualité, correspondance de Ludovic Piétenu. Et puis 120 monuments ont été retenus pour le loto du patrimoine 2009, tirage spécial le 14 juillet. Une nouvelle plutôt inhabituelle en provenance de Russie. Les charges qui pesaient contre le journaliste Ivan Golunov viennent d'être levées et les policiers qui l'avaient arrêté ont été suspendus de leurs fonctions. Une marche était prévue demain dans le centre de Moscou pour soutenir le journaliste d'investigation, connu notamment pour ses enquêtes sur la corruption et accusé de trafic de drogue. Nous retrouvons notre correspondant en Russie, Claude Bruyot. Bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Claude, la mobilisation en faveur d'Ivan Golunov a vraiment pris de l'ampleur ces derniers jours. Est-ce que c'est ce mouvement de solidarité qui a fait basculer la situation ?
Oui, c'est incontestable que la mobilisation massive, plus de 180 000 signatures symbolisant la société civile pour la pétition qui demandait la libération d'Ivan Golunov, le rassemblement étonnant des journalistes vedettes des médias fédéraux avec la presse indépendante, tout cela a joué un rôle capital, bien sûr. Mais ce qui est à retenir également, c'est qu'à aucun moment, le pouvoir fédéral n'a été directement attaqué dans cette affaire. Simplement, on a pressé le pouvoir de s'emparer d'un problème qui concerne la police à Moscou, et à partir de l'instant où la fabrication de fausses preuves pour transformer un journaliste d'investigation en trafiquant de drogue s'est révélée au grand jour n'être qu'une vulgaire machination, eh bien, le Kremlin ne pouvait faire autrement que de prendre l'affaire en main au niveau fédéral. Et en limogeant aujourd'hui les policiers responsables de cette véritable mascarade, le pouvoir central est finalement dans le rôle du redresseur de tort, de la même manière que Vladimir Poutine, régulièrement d'ailleurs, congédie tel ou tel gouverneur sous prétexte qu'il a fauté. La question d'une victoire à grande échelle de la société civile mobilisée contre l'injustice et qui obtient gain de cause en s'adressant au pouvoir suprême se poserait seulement si des cas beaucoup plus graves encore étaient résolus à l'identique, comme celui par exemple de Oleg Sentsov, réalisateur ukrainien accusé de terrorisme en Crimée, emprisonné pour 20 ans en Sibérie, alors que les ONG avaient qualifié il y a 3 ans son procès de stalinien et que l'intéressé a toujours nié les faits.
Claude Bruyot en direct de Moscou. Et hier déjà, une première libération avait eu lieu dans une affaire assez semblable. Claude, vous venez de joindre Alexander Tcherkassov, responsable de Memorial, la principale organisation russe de défense des droits de l'homme. Il vient d'obtenir la libération d'Olioub Titiev, son représentant régional en Tchétchénie. Défenseur de la cause homosexuelle, Olioub Titiev purgeait une peine de 4 ans de prison. Il avait été arrêté il y a un an et demi dans les mêmes conditions que Ivan Golunov, avec 20 grammes de hashish dans sa voiture. Alexander Tcherkassov est convaincu que ces deux libérations quasi simultanées sont voulues par le pouvoir et obéissent au même mécanisme.
Deux événements sont pareils. Le mécanisme est pareil. En Tchétchénie, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus long et beaucoup plus dur. Si ce n'est pas l'intérêt du pouvoir suprême, si la protestation est locale, si c'est pas anti-Poutine, peut obtenir le résultat. Mais si quelque chose devient dangereux, si les gens montrent qu'ils peuvent se mobiliser, si les gens montrent qu'ils peuvent protester, la machine de répression, les autorités ont peur des faits de domino.
Alexander Tcherkassov de l'Organisation de défense des droits de l'homme Mémorial. En Italie, le procès de l'ancien maire de Riace s'est ouvert ce matin. Domenico Lucano comparaît pour aide à l'immigration clandestine. Ce village de Calabre est devenu un modèle pour l'intégration des migrants et son ancien maire reçoit des soutiens du monde entier. Des élus de la gauche française l'avaient visité. En Italie aussi, il bénéficie de tout un réseau de soutien, mais il a aussi des contradicteurs comme le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Quoi qu'il en soit, Mathilde Imberti, Domenico Lucano ne regrette rien de son action.
Dans ses déclarations aux journalistes avant l'ouverture de son procès, l'ancien maire de Riace a condamné la politique des ports fermés en Italie et défendu une nouvelle fois son engagement. Maire durant 16 ans de ce village de Calabre, il donnait du travail et un toit aux familles de migrants qui ont repeuplé ainsi Riace, mais aussi d'autres bourgs de Calabre fonctionnant sur le même modèle. Depuis l'arrestation de Domenico Lucano et le blocage des fonds alloués au projet d'intégration, ces familles sont parties. Mimmo Lucano se dit prêt à relancer le combat.
Le modèle Riace a démarré bien avant que je devienne maire. Moi, je ne pourrais jamais vivre sans un engagement social et sans être engagé politiquement. Ça ne passe pas forcément par mon élection.
D'ailleurs, à Riace, c'est la Ligue, le parti de Matteo Salvini, qui a remporté les dernières élections municipales. Le ministre de l'Intérieur avait salué cette élection d'un tweet ironique. Précédemment encore, il avait traité Domenico Lucano de nul. Le procès de l'ancien maire de Riace pour irrégularité dans la gestion de l'accueil des migrants, aide à l'immigration clandestine, s'est ouvert ce matin, puis a été renvoyé à la semaine prochaine pour les premières audiences sur le fond. Mimmo Lucano, qui a été accueilli devant le palais de justice de Locri par des Italiens le soutenant, lui et son modèle d'intégration. Il a interdiction de s'approcher de Riace en attendant la décision de justice.
L'homosexualité n'est pas une déviance que l'on pourrait soigner. C'est pourtant une croyance qui persiste et qui a favorisé les thérapies de conversion, des traitements pseudo-scientifiques ayant pour objectif de rendre des homos hétérosexuels. Eh bien, l'Allemagne a décidé d'en finir avec ces thérapies de conversion. D'ici la fin de l'année, le ministre de la Santé veut présenter un projet de loi qui ferait de l'Allemagne l'un des rares pays d'Europe à agir fortement contre de telles pratiques, Ludovic Piétenu.
L'homosexualité n'est pas une maladie et n'a donc pas besoin d'une thérapie. Le ministre allemand de la Santé, homosexuel lui-même, a été très clair ce matin, même beaucoup plus offensif qu'il y a quelques mois. Il veut désormais mettre un terme à ces thérapies qui prétendent aider à changer d'orientation sexuelle. Jens Spahn, après avoir écouté au printemps de nombreux spécialistes de la médecine comme du droit, est parvenu à la conclusion que ces thérapies produisent des effets dévastateurs sur la santé, des dépressions, des suicides, électrochocs, prières collectives, séances d'exorcisme ou de luminothérapie, des soins offerts par des psychothérapeutes douteux, souvent liés aux milieux religieux radicaux, les églises évangéliques chrétiennes, notamment très présentes en Allemagne, qui s'opposent fermement à ce projet de loi. Au moins 1000 personnes seraient concernées chaque année. Le ministre veut imposer une amende très forte à ceux qui pratiqueraient encore ces thérapies. Il a le soutien de la quasi-totalité des députés pour un vote avant la fin de l'année. C'est aussi, dit ce ministre conservateur, chrétien démocrate, un signal fort de l'État pour protéger les personnes homosexuelles de la discrimination et de la stigmatisation.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin. La justice du Botswana annule l'interdiction de l'homosexualité. La Haute Cour a jugé que les clauses du code pénal du Botswana relatives aux relations entre personnes du même sexe étaient des reliques de l'ère victorienne qui oppressaient une minorité. Le code pénal prévoyait des peines pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Ce jugement était très attendu sur l'ensemble du continent africain, sachant que l'homosexualité reste illégale dans plus de la moitié des pays subsahariens. Les dérives du capitalisme nourrissent les extrêmes. Voilà ce qu'Emmanuel Macron est venu dire à Genève à l'occasion des 100 ans de l'Organisation internationale du travail. On s'attendait de la part du chef de l'État à un discours volontariste en faveur du multipartisme. C'était bien le cas. Et il a plaidé pour une plus grande reconnaissance des normes sociales dans les accords de libre-échange. Mais il s'est aussi montré très alarmiste sur l'avenir. Si l'ordre économique mondial ne change pas pour redonner un visage humain à la mondialisation, Marie Viennot.
Le président français a largement débordé des 20 minutes qui sont accordées aux représentants des États ici. Devant une assemblée remplie aux deux tiers, il a parlé 45 minutes. 10 pour dire le positif, les bienfaits du tripartisme, les avancées concrètes de l'OIT et 35 minutes pour dire la menace, comme s'il venait là en lanceur d'alerte.
L'OIT est cet endroit où à chaque fois, la conscience a su se réveiller quand le chaos était là. Et je pense que le chaos est là. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'orée, si nous n'y prenons pas garde, d'un temps de guerre.
Le chaos, explique Emmanuel Macron, il est politique, la montée des extrêmes. Écologique, le climat déréglé. Il est social, la mondialisation a rimé pour certains avec délocalisation et dégradation de leur vie. Et la cause de ce chaos, affirme-t-il, c'est le néolibéralisme.
Ces dernières décennies ont été marquées par quelque chose qui n'est plus le libéralisme et l'économie sociale des marchés, mais qui a été, depuis 40 ans, l'invention d'un modèle néolibéral et d'un capitalisme d'accumulation Quelque chose ne fonctionne plus dans l'organisation de ce capitalisme. On doit tous le regarder en face.
Que le président français prononce un discours plus à gauche sur la scène internationale que dans l'Hexagone, on l'a déjà vu avec son discours de Davos et à l'ONU. Et on l'a déjà vu aussi avec Nicolas Sarkozy au lendemain de la crise financière. Mais là, devant un parterre quasi conquis d'avance, Emmanuel Macron est allé un cran au-dessus. Au nom de la cohérence, il a plaidé pour une inversion des priorités.
On ne peut pas défendre ce que je viens de dire à l'OIT et de dire ensuite, quand on est au FMI autour de la table du Conseil européen, « Allez, vous allez vous ajuster face à la crise financière et réduire vos droits sociaux. » Ça doit être terminé. Je ne veux plus qu'en Europe, nous considérions que le sujet de l'ajustement économique et financier et de la dette prévaut sur les droits sociaux. Je ne veux plus d'accords commerciaux internationaux qui alimentent le dumping social et environnemental.
Que dira la France si la Commission européenne propose de sanctionner l'Italie parce que son budget n'est pas dans les clous et sa réforme des retraites trop favorable, comme elle l'a déjà fait ? Que dira-t-elle au prochain accord de libre-échange ? Le président français, par ses propos, met la barre très haut. Dans ce temple des discours de bonnes intentions, il promet, lui, de passer du verbe à l'action et que la France, donc, montrera l'exemple.
Marie Viennot à Genève pour France Culture. La présidente de Radio France était auditionnée à l'Assemblée nationale cet après-midi. Sybille Veil a présenté son bilan et ses projets aux députés de la Commission des affaires culturelles. Un rendez-vous prévu depuis longtemps, mais qui s'est tenu dans un contexte difficile. La direction de Radio France a annoncé la semaine dernière un plan d'économie de 60 millions d'euros à réaliser d'ici 3 ans, assorti d'une suppression de 270 à 390 postes. Les députés n'ont pas manqué d'interroger Sybille Veil sur ces sujets, Maxime Tellier.
Oui, la présidente de Radio France a d'abord redit aux députés ce qu'elle avait déjà annoncé la semaine dernière, à savoir qu'il faut faire mieux ou aussi bien, mais avec moins de moyens. Le montant des économies à réaliser, 60 millions d'euros d'ici 2022, est tout de même 3 fois plus élevé que celui annoncé l'an dernier. À l'époque, Radio France semblait épargnée par rapport à France Télévisions. Mais voilà, l'État va verser 20 millions d'euros de moins via la redevance. Les charges vont augmenter de 20 millions et il faut trouver encore 20 autres millions pour investir dans le numérique. Tout cela entraînerait, vous l'avez dit, 270 à 390 suppressions de postes sur une entreprise qui compte 4600 salariés. Ce qui a valu cette question de la députée communiste Elsa Faucillon.
C'est un pacte social qui multiplie par 3 un plan d'économie. Il prévoit 60 millions d'euros d'économies d'ici 2022. 60 millions d'euros, c'est quand même presque 10% du budget annuel de Radio France. Il sera évidemment lourd de conséquences pour le travail et l'emploi à Radio France, ainsi évidemment que pour la qualité des contenus à l'antenne sur les différentes stations du groupe. Je crois que dire le contraire est une contre-vérité.
Voilà un commentaire critique, hein, plus qu'une question. Sybille Veil a répondu ainsi peu après.
On a un ensemble de missions de service public dans un contexte économique qui est un contexte d'économie, mais pour lequel on a une visibilité sur plusieurs années, ce qui nous permet de construire une stratégie ambitieuse pour le service public puisqu'on garde l'ensemble des chaînes de radio.
Et Sybille Veil insiste bien sur ce point. Radio France, on ne ferme pas de chaîne, on ne ferme pas d'orchestre. Contrairement à France Télévisions, où la direction de l'autre côté de la Seine veut fermer France O ou encore supprimer le Soir 3, par exemple. Côté syndicat, la Maison Ronde, on dénonce un chantage, car le nombre de postes supprimés sera moindre si les salariés renoncent à des jours de congé.
Maxime Tellier. Alors que le Sénat doit adopter ce soir le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn, des personnels hospitaliers se sont à nouveau mobilisés aujourd'hui. Des rassemblements se sont tenus devant le ministère de la Santé à Paris et devant plusieurs agences régionales de santé pour dénoncer les conditions de travail du personnel soignant. Tara Schlegel.
Les syndicats font le pari que le mouvement va encore s'étendre. Linda et Nathalie sont infirmières à Toulon, aux urgences. L'an dernier, elles ont fait 118 jours de grève et dans leur service, rien n'est vraiment réglé.
Il faut savoir une chose, c'est aujourd'hui, en fait, on n'arrive plus à maintenir le personnel passionné pour les urgences puisque les gens partent par épuisement, par dégoût de l'insécurité totale que dans l'exercice de nos fonctions d'infirmier. Et du coup, tous les ans, voire tous les 2 ans, on renouvelle de tiers l'équipe. Ce qui est énormissime pour nous, c'est la perte du savoir, c'est la perte de la connaissance. Et les plus anciens, on se doit de former les nouveaux et on ne donne pas les moyens de former les nouveaux. Donc, on a plus de 30 patients par infirmier. Dans un service d'urgence où tout le monde réclame, bien sûr, à juste titre, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ont envie de voir leur famille, parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ne voient pas le médecin arriver, parce qu'ils ne voient pas les infirmiers. enfin, on en devient maltraitant. Alors c'est, moi personnellement, je ne me suis pas engagée pour ça.
Un peu plus loin, Jennifer et Corinne sont aides-soignantes dans un EHPAD cette fois, dans l'Oise. Et pour elles, c'est une lutte globale qu'il faut mener.
Bah bien sûr, on ressent le même besoin puisque de toute façon, on est dans la même situation où on est en effectif très restreint. Il y a des glissements de tâches hein, puisqu'il faut savoir que chez nous, par exemple, en EHPAD, on demande aux ASH de venir dans les soins. Donc les ASH, c'est des agents de service hospitaliers. Donc leurs missions, ce sont la lingerie, la cuisine et l'entretien des locaux. Et donc du fait que maintenant il y a des manques au niveau des aides-soins, donc on les amène à venir dans les soins sans être formés. Donc c'est vrai qu'il y a des glissements de tâches. Le fait de plus pouvoir poser des RTT, des congés, constamment rappelés, exactement comme ce qui se passe dans les urgences. On est exactement dans ça. Et on a également des taux d'absentéisme très importants.
À Saint-Antoine, où tout a démarré, Aurélie travaille en hématologie, pas au service des urgences. Déléguée CGT, elle pense que l'étincelle va prendre partout.
Moi, je suis bien contente que les collègues des urgences ils se mettent en lutte, qu'ils se bagarrent, qu'ils relèvent la tête, qu'ils disent stop. Voilà, parce qu'ils ont raison et qu'il faut que les autres collègues ils s'y mettent. Parce que de toute façon, c'est les mêmes problèmes. Donc autant qu'on se mette tous ensemble, on sera encore plus fort. Et c'est surtout la direction de la PHP et même la ministre de la Santé et le gouvernement derrière. Ils n'ont qu'une peur, c'est que ce mouvement il se développe. Et sur la santé publique, on est 75 000, donc on a largement les moyens de les faire reculer.
Et malgré ce vœu d'Aurélie, en attendant, aucune avancée majeure n'a été obtenue aujourd'hui par la délégation.
121 monuments ont finalement été retenus pour le loto du patrimoine 2019. 18 étaient connus depuis le mois de mars. La Fondation du patrimoine a dévoilé cet après-midi les autres sites sélectionnés. L'an dernier, 22 millions d'euros avaient été récoltés. Objectif affiché cette année, 30 millions d'euros. Mais en réalité, Cécile de Kervaes-Doué, il faudrait 10 fois plus.
Oui, toute la mission patrimoine s'accorde à le dire, c'est trop peu par rapport aux 2 milliards d'euros nécessaires pour sauver les 3500 monuments en péril signalés par le grand public. Il faut dire qu'avec seulement 340 millions d'euros, le budget patrimoine n'est pas la priorité du ministère de la Culture, puisque ça n'est que 3% du budget annuel. Pourtant, d'après un sondage BVA, ce qui rassemble plus de dons des Français, eh bien, c'est justement le patrimoine, qui reçoit 260 euros chaque année par Français en moyenne. Alors pourquoi ne pas créer un impôt spécifique pour le patrimoine? J'ai posé la question à Franck Riester, le ministre de la Culture.
La réponse tout impôt, ce n'est pas, à mon avis, la bonne réponse. La réponse aussi, elle est dans des choix des Français de se mobiliser et le démontrent. Et on peut les remercier tous les jours de leur mobilisation pour le patrimoine, comme les collectivités territoriales, comme un certain nombre d'entreprises privées. Ce qui compte, c'est d'être en accompagnement de ces initiatives-là. Et je pense que ce qu'on démontre là, à travers cette politique du patrimoine, c'est justement que nous sommes un peu les catalyseurs de cette énergie. Voilà, c'est ça un rôle de l'État. On est dans une société moderne où l'État doit accompagner l'énergie de nos compatriotes.
D'où la tendance de ce loto cette année, il faut répondre aux vœux des Français. Donc le loto financera plus de petites églises rurales, des sites industriels, des jardins et des sites non protégés, mais toujours en respectant trois critères, dont l'impact économique du monument. Ce qui fait dire à Stéphane Bern qu'il faudrait effectivement finalement un impôt patrimoine.
Je pense que c'est à la charge de l'État, parce qu'après tout, c'est ce qui rapporte le plus d'argent au pays. On est le premier pays visité au monde avec 90 millions de visiteurs. Maintenant, j'essaie de trouver, en attendant, des pis-allers, d'autres solutions, des solutions alternatives. Et je propose, pourquoi pas, des nuitées pour les citoyens extra-communautaires. Tous ceux qui viennent d'Amérique, de Chine, du Japon, visiter nos trésors, eh bien, on prend 50 centimes d'euros par nuit d'hôtel et on les donne au patrimoine.
Et en attendant que son idée aboutisse, Stéphane Bern a obtenu que cette année, les taxes des billets de loterie soient reversées exclusivement au patrimoine en péril.
Tirage spécial le 14 juillet. Vox, le premier salon du livre audio, s'est ouvert à Montreuil. Un rendez-vous pour écouter les livres vous raconter des histoires. Dans ce domaine, la France a encore beaucoup de retard sur l'Allemagne. L'an dernier, 20 millions d'Allemands ont écouté au moins un livre audio et la fiction sonore est considérée comme un genre littéraire à part entière, David Philippot.
En allemand, cela se dit « Hörspiel » comme « hören », écouter, et « Spiel » le jeu, et fabriquer une fiction sonore est une activité répandue dans les écoles allemandes.
Nein, meine goldene Kugel ist in den Brunnen hineingefallen.
Comme ici, dans cette classe de CE2, dans une école en plein cœur du Berlin turc, aucun enfant ne parle allemand à la maison, ils sont tous fiers d'avoir réalisé, l'automne dernier, leur premier Hörspiel.
Au début, on avait juste des images. Il fallait écrire le meilleur texte pour aller avec. Et ensuite, avec le micro, on a enregistré l'histoire.
Les effets étaient super bien. D'abord, on a juste dit le texte, on les a rajoutés ensuite.
Pour ces enfants immigrés, les fictions sonores sont souvent le premier pas dans le monde de la littérature, explique l'institutrice Elke Menzel.
La plupart des parents que nous avons ici, les Turcs, les Arabes, peu importe la nationalité en fait, souvent, ils n'osent pas lire des histoires en allemand à leurs enfants. Alors nous leur conseillons de mettre un CD le soir pour se détendre, pour ne pas que les enfants aillent au lit juste après avoir regardé la télé. Une jolie histoire pour se calmer, c'est bien. Et au bout de quelques temps, on le constate, certains commencent à leur lire ou à leur raconter des histoires.
Nicolas Obermann est justement auteur et scénariste pour ce type d'œuvre littéraire dont le côté magique la fascine.
C'est comme un film, mais on ferme les yeux. Et on a tout. Là, par exemple, comme on a un petit chien qu'on entend. On a les gens qui sont essoufflés parce qu'ils ont couru. Donc on voit la montagne parce qu'ils sont essoufflés. C'est un vrai monde.
Contrairement à la France, l'Allemagne n'a jamais abandonné cette tradition de feuilleton sonore. Encore aujourd'hui, il en passe un tous les jours à la radio publique. Le principal distributeur propose 220 000 titres en allemand pour un marché de plus de 350 millions d'euros.
Demain mercredi, le temps sera encore instable dans un grand quart nord-ouest. Il fera 7 à 18 degrés le matin, 15 à 24 l'après-midi, jusqu'à 26 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.